Rien est une émission entièrement consacrée à explorer le monde de F. Merjanov.
Une personne dont nous ne savons rien, ou presque.
Une vie réduite à quelques lignes, des lieux, Nice et la mer Noire, une date, 1970.
Et aussi quelques mots essentiels. Macédoine, nihilisme, apiculture et rien.
Mais rien de plus.
Si nous ne savons rien de son genre, nous pouvons affirmer son appartenance aux hominines.
C'est-à-dire à la vaste famille qui va de Lucie l'Australopithèque à Conan le barbare, en passant par Néandertal. L'humanité actuelle est ce qu'il en reste.
Dans cette émission, nous employons le terme hominine pour parler des êtres humains. Quel que soit leur genre ou leur sexe, il nous permet de contourner les contraintes grammaticales sur le masculin et le féminin. Nous précisons seulement lorsque cela est nécessaire.
Tous les mois, l'émission Tout sur Rien propose des biographies d'hominines inconnues ou des démystifications d'idoles, des explorations géographiques insolites ou des réalités sociales singulières.
Elle tisse des liens entre F. Merjanov et sa réalité avec une bonne dose de capillotraction, l'art de tirer par les cheveux.
Elle se nourrit de toute l'absurdité du monde pour mieux le vomir.
Elle réhabilite des hominines qui comptent pour rien dans l'histoire avec un grand H.
Elle reprend à son compte ces mots d'un célèbre écrivain inconnu.
Dans nos familles, on boit dans des verres à moutarde. Nous ne sommes pas des aristocrates, nous manquons d'élégance et notre race est incertaine. Mais nous n'oublions rien.
Tara, cousin éloigné du capitaine Caverne et de Monsieur Mangetou.
Précision.
L'article de Pierre-François Percy.
Bonjour.
Paris en 1805 après J.C. dans
Journal de médecine, chirurgie, pharmacie, etc.
Sous le titre
Mémoire sur la polyphagie.
Est la seule et unique source historique concernant Tarare. Précisons ici que J.C. est une célèbre marque de distributeur automatique de pain, de vin et de poisson. Tous les écrits postérieurs concernant Tarare reprennent les informations contenues dans cet article de Percy. Les détails biographiques, les descriptifs physiques, proviennent de la rencontre entre Percy et Tarare dans un contexte hospitalier.
Origine.
Rappelons que les hominines sont une espèce omnivore qui fait sortir par l'anus tout ce qui rentre par la bouche, et que les mâles sont une des composantes des hominines qui est dotée d'une sorte de bouton d'arrêt d'urgence entre les cuisses qu'il faut frapper pour le déclencher. Le plus simple reste le coup de pied. Simplement appelé Tarare, Percy affirme que cela est plutôt un surnom que son patronyme. Le prénom de cet hominine mâle est inconnu. Plusieurs hypothèses peuvent être retenues. En tant que patronyme, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, Tarare est attesté dans la région Rhône-Alpes, au centre-est de la France, essentiellement dans le département de l'Ain, selon le site de généalogie Généanet. Et il existe une petite ville portant ce nom au nord de Lyon. Sans données biographiques, il n'est pas possible de confirmer à travers les registres d'état civil sa naissance ou son existence administrative dans cette ville. L'autre hypothèse évoquée est une référence au personnage de Tarare dans l'opéra du même nom. Créé par le compositeur vénitien Antonio Salieri et l'écrivain français Beaumarchais, cet opéra en cinq actes est joué pour la première fois en juin 1787 à Paris. L'histoire se passe dans le lointain royaume fictif d'Ormuz, dirigé par le tyran Attar. Ce dernier jalouse la popularité de l'un de ses soldats, Tarare, dont il enlève la femme et tente de le faire assassiner. Finalement, Attar se suicide et Tarare prend sa place avec le soutien populaire. Deux ans avant le renversement de la monarchie en 1789, l'opéra aborde le sujet délicat de la tyrannie et de l'absolutisme. Chroniqueur des nuits parisiennes, Restif de la Bretonne s'emballe. Jamais l'opéra n'eut rien d'aussi attachant, d'aussi diversifiant en donnant à ce mot la signification d'amusement complet. La musique en est délicieuse et on la trouve telle sans connaissance de l'art. Le succès est au rendez-vous. Rien que pour l'année 1787, 33 représentations sont données. Comme cela se fait souvent à cette époque, deux parodies sont publiées rapidement. Histoire de Tarare, suivie de quelques réflexions sur l'opéra du même nom d'un certain Carré de Belleville, et Errata, parodie de Tarare, de MFLB. Une troisième, sous la plume de Louis-François Grollet, parodie de Tarare, est prévue en 1787 au Théâtre de l'Ambigu Comique à Paris, avant d'être déprogrammée. Aucune de ces trois parodies n'est montée en spectacle. Par contre, L'Enlaire ou le Chaos est au programme du Théâtre italien en juillet 1787. Écrite par l'abbé Louis Bonnefoy de Bouillon, cette parodie du Tarare du duo Salieri-Beaumarchais n'obtient pas le même succès que l'original. Le courrier lyrique et amusant, ou passe-temps des toilettes, précise que l'on n'y retrouve que le ridicule de l'opéra. Et le Journal de Paris est incisif. Ce genre, le plus facile et le dernier de tous, est au-dessous de rien quand il n'est pas traité avec quelque esprit, et ce qui est malheureusement ce qui manque le plus à cette parodie nouvelle. Restif de la Bretonne n'hésite pas à se joindre aux huées du public. La parodie Bagarre, une comédie en deux actes et en prose, de Jacques Mag de Saint-Aubin, est montée pendant plusieurs mois au Théâtre de l'Ambigu Comique. Idem pour Turlelure ou Le Chaos Perpétuel, une comédie burlesque en trois actes et un prologue qui se joue au Théâtre des Grands Danseurs du Roi jusqu'en septembre 1787. Ou encore Tarare au Porcheron, présenté comme un pantomime pyrrhique et burlesque et annoncé au Jardin Ruggieri dans le quartier festif des Porcherons. Plus d'une dizaine de parodies de Tarare sont connues et présentées au public pendant la seconde moitié de l'année, dont L'Enlaire Pompon, Colin Maillard, Bernic ou le Tyran Comique, Fanfare ou le Garde-Chasse, etc., etc., etc.
En plus de ses parodies, Tarare suscite textes et critiques dès 1787. Du discours préliminaire de l'opéra de Tarare, appauvri de notes, écrit par Beaumarchais lui-même et signé par une société d'indifférents, à l'anonyme analyse critique de Tarare, en passant par le récit du portier du sieur Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais d'Antoine de Rivarol, une satire en vers qui a trois pages de texte et une de notes. Dans son discours préliminaire, Beaumarchais explique qu'il emprunte le nom de Tarare à un conte écrit par Antoine Hamilton, un écrivain britannique d'expression francophone. Dans son histoire de Fleur d'épine, un personnage s'appelle ainsi. Il est un obscur écuyer dans un royaume du Cachemire, sur les pentes de l'Himalaya, gouverné par un calife. Il est question de sorcières et de jeunes hominines femelles à sauver. Dans ce conte, le nom Tarare a la particularité d'être répété irrépressiblement par celles qui l'entendent.
« Mon ami, lui dit-il, comment vous appelez-vous ? Tarare, répondit-il. Tarare, dit le calife. Tarare, dirent tous les conseillers. Tarare, dit le sénéchal. Je vous demande, dit le calife, comment vous vous appelez ? « Je le sais bien, sire, répliqua-t-il. « Eh bien, dit le calife. « Tarare, dit l'autre, en faisant la révérence. « Et pourquoi vous appelez-vous Tarare ? « Parce que ce n'est pas mon nom. « Et comment cela, dit le calife ? « C'est que j'ai quitté mon nom pour prendre celui-là, dit-il. « Ainsi, je m'appelle Tarare. « Quoique ce ne soit pas mon nom, il n'y a rien de si clair, dit le calife. »
Tarare est si populaire en 1787 que l'almanach de 1788 mentionne une fête de Tarare dans son calendrier. La popularité de Tarar dépasse le cadre de l'opéra du même nom, car il est aussi un mot courant. Attesté dans le milieu du XVIIe siècle, il est une interjection signifiant que l'on met en doute ou que l'on juge avec dérision ou ironie les propos que l'on vient d'entendre, selon le Trésor de la langue française. L'équivalent de taratata. L'expression tarar pompon est utilisée pour dire la même chose. Le littré signale que cette expression se dit pour se moquer de la vanité étalée par quelqu'un dans un récit, dans des projets. Un dictionnaire d'argot musical précise que ce sont deux onomatopées du son de la trompette et du tambour pour se moquer d'un vantard. Et la formule « tarar pompon » fait office de « tralala » pour rythmer un texte. Mais c'est aussi le nom d'un air musical, utilisé au cours du XVIIIe siècle dans des parodies. « Bagarre » de Jacques Mag de Saint-Aubin utilise d'ailleurs cet air musical. Cette construction linguistique se retrouve dans le titre de la parodie « L'enlair pompon ». Interjection d'origine incertaine, « l'enlair » a le sens de baliverne, une signification qui se retrouve dans de nombreuses formes régionales de la francophonie ou de l'occitanophonie. Il est à rapprocher de « l'enlair » ou « l'alalair » qui ponctuent les chansons. « L'enlaira » en issard. Il s'utilise aussi dans l'expression « envoyer se faire l'enlair » pour se débarrasser d'une personne importune. Envoyer promener, pour le dire poliment. Se faire jeter en l'air, pour la version moderne. Le glissement parodique de Tarar est aussi présent dans le titre « Turelure » ou « Le chaos perpétuel ». Onomatopée et non, « Turelure » est utilisé en guise de refrain dans des chansons ou des répétitions de paroles. Ce mot a la même fonction que « turlututu » ou « tralala ». Une turlure est une rengaine, et une turlute est une forme musicale parmi les francophones d'Amérique du Nord qui consiste à chanter des onomatopées sur des airs de violon. Le sens de fellation, sucer un pénis avec une bouche, pour turluter, est-il à chercher du côté des bruits et onomatopées que fait une personne en train de sucer? Ou plutôt vers le chant du turlut, une espèce de petit oiseau des prés. Autant de raisons pour qu'à la fin du XVIIIe siècle, un homonyme puisse être appelé ou se faire appeler Tarar, et cela sans peut-être aucun lien avec l'opéra.
Que mon très pauvre esprit est brute et sans culture, qu'il ne doit rien à l'art, mais tout à la nature. Extrait de Errata, parodie de Tarar, 1787. Papam 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 papam
papam papam papam papam papam papam bribe. Papam papam papam
papam. La première date mentionnée par Percy concernant Tarar est 1788. Selon lui, il arrive à Paris cette année-là et nul ne sait d'où il vient et contrairement à ce qui est parfois affirmé par des sources secondaires, il n'y a pas de certitude qu'il soit né à Tarare en région lyonnaise. Percy ne fait qu'émettre l'hypothèse. Après avoir fui le domicile parental, il vit de petits vols et de mendicité. Comme les pauvres le savent, il comprend très rapidement que ne pas manger est une cause de mortalité très répandue chez les hominines. Sur Paris, il se joint à des spectacles de rue. Pour attirer la foule et les badauds, il propose un numéro de gloutonnerie.
Un jour, il défia le public de le rassasier. Et en quelques minutes, il mangeait un panier de pommes quand quelqu'un avait consenti à en faire les frais. Un autre jour, ne rencontrant pas de ces dupes généreuses, il avalait des cailloux, des bouchons en liège et tout ce qu'on lui présentait.
L'attraction gloutonne lui permet de survivre au quotidien, mais engendre des désagréments. À plusieurs reprises, il va consulter à l'hôpital de l'Hôtel-Dieu pour de
terribles coliques.
Dans les brides de sa vie que livre Percy, celui-ci relate l'anecdote où Tarar se propose d'avaler la montre à gousset de l'un des chirurgiens, ou encore la tentative de le dissuader de ses spectacles de gloutonnerie en lui proposant de lui ouvrir le ventre pour en extraire ce qui gêne. Bien que ne pesant qu'un peu plus de 45 kilos, Tarar affirme pouvoir manger en une journée l'équivalent de son poids en bœuf. Malgré ce régime alimentaire à base de tout et de n'importe quoi, Tarare continue à faire des spectacles dans les rues parisiennes.
On fera moins nos malins quand il n'y aura plus rien. Plus de place dans les océans pour mettre nos ordures dedans. Quand il n'y aura plus de pétrole, mais comment qu'on va faire pour faire ramener nos petites bricoles de l'autre bout de la terre? On sera peut-être obligé de ne plus rien acheter. C'est horrible, mais comment faire sans nouvelles affaires? La planète, on lui veut pas de mal. On veut juste faire des emplettes, et c'est bien normal. On veut des trucs et des machins, ça nous rend heureux. Nous, les objets qui servent à rien, ça nous rend joyeux. Mais imagine un jour, y a plus assez d'eau pour même en cycle court laver tous mes petits hauts. Imagine, y en a plus assez pour faire pousser du coton. Comment qu'on va trouver des manteaux de mi-saison? Imagine, on est amené à réparer nos affaires, alors qu'en racheter, ça coûte même pas plus cher. La planète, on lui veut pas de mal, on veut juste faire des emplettes, et c'est bien normal. On veut des trucs et des machins, ça nous rend heureux. Nous, les objets qui servent à rien, ça nous rend joyeux. Moi, parfois, j'ai peur qu'un jour, au Bangladesh, ils se disent que 10 centimes de l'heure, c'est vraiment trop la dèche, qu'ils veuillent être payés comme de vrais humains. Mais alors, comment acheter des t-shirts à 3,20€? Il faut qu'on en profite pour acheter des choses, qu'on achète tout et vite, avant que tout explose. La planète, on lui veut pas de mal, on veut juste faire des emplettes, et c'est bien normal. On veut des trucs et des machins, ça nous rend heureux. Les objets, ça sert pas à rien, ça sert à rendre joyeux.
La monarchie absolue en France est remplacée par une monarchie constitutionnelle en 1789, puis par un système républicain en 1792. Ces troubles sociaux et politiques et la mise à l'écart de la famille royale et l'abolition du système féodal inquiètent les royautés alentour en Europe. Plusieurs s'allient pour renverser cette situation inadmissible qui est, pour elles, un mauvais exemple. Aucune information n'est disponible sur la vie de Tarare durant cette période d'agitation politique. Probablement réquisitionné, il est incorporé dans un bataillon de l'armée révolutionnaire française lorsque la France révolutionnaire entre en guerre avec les coalitions royalistes européennes. Pour satisfaire son immense faim, il échange corvées contre nourriture avec les autres soldats. Mais cela n'est pas suffisant. Trop affaibli, il doit se rendre à l'hôpital militaire de Soultz, en Alsace. Il y est copieusement nourri, mais pas assez pour être rassasié. Il tente de chercher de la nourriture pour calmer sa faim. Il mange les préparations pour les cataplasmes qu'il dérobe à l'infirmerie. Tout ce qu'il trouve fait l'affaire.
Tarare, tenant un chat vivant par le col et les pattes, lui déchira le ventre avec les dents, suça le sang et bientôt ne laissa plus que le squelette. Une demi-heure après, il rejeta le poil à la manière des carnivores et des oiseaux de proie.
Ancien de l'hôpital de l'Hôtel-Dieu à Paris, dorénavant attaché à l'hôpital militaire, un médecin reconnaît Tarare et sait qu'il a une capacité immense à ingurgiter toutes sortes de choses. Désireux d'en savoir plus sur les raisons d'un tel appétit, il propose à Tarare d'avaler une couleuvre, qu'il gobe, et teste ses capacités gargantuesques avec 15 portions individuelles, qui sont mangées facilement.
Mange tout, mange tout, mange tout, le mange tout, mange de tout. Mange tout, mange tout, mange tout, le mange tout, mange de tout. Mange tout, mange tout, mange tout, le mange tout, mange de tout. Mange tout, mange tout, mange tout, le mange tout, mange de tout. Il a mangé les cornichons, tous les yaourts et le poisson, le miel et la crème de marron, le congélo et les glaçons. Mange tout, mange tout, mange tout, le mange tout, mange de tout. Mange tout, mange tout, mange tout, le mange tout, mange de tout. Mange tout, mange tout, mange tout, le mange tout, mange de tout. Il a mangé tous mes crayons, ma trousse, mon cahier d'addition, mes chaussettes et mon pantalon, tout le jardin et la maison. Mange tout, mange tout, mange tout. mange tout, le mange tout, mange de tout. Mange tout, mange tout, mange tout, le mange tout, mange de tout. Mange tout, mange tout, mange tout, le mange tout, mange de tout.
Il a mangé la pollution, l'autoroute et tous les camions, la plage, le ciel et les avions.
Mange tout, mange tout, mange tout, le mange tout, mange de tout. Mange tout, mange tout, mange tout, le mange tout, mange de tout. Mange tout, mange tout, mange tout, le mange tout, mange de tout.
Il lui restait une petite place, il n'a fait qu'une bouchée de Las Vegas.
Mange tout, le mange tout, mange de tout. Mange tout, mange tout, mange tout, le mange tout, mange de tout. Mange tout, mange tout, mange tout, le mange tout, mange de tout. Mange tout, mange tout, mange tout, le mange tout, mange de tout.
L'idée naît alors d'exploiter cela à des fins militaires. Le médecin donne à Tarar un étui rigide, dans lequel il glisse une feuille de papier, et lui demande de l'avaler. Le lendemain, Tarar ramène l'étui nettoyé de ses excréments. Le papier est intact. Informé de cela, le chef d'état-major de l'armée convoque Tarar et lui donne à manger plus de 10 kilos de foie et de poumons crus. Ensuite, il lui confie une lettre, enfermée dans un étui, afin qu'il la fasse parvenir discrètement à un officier français fait prisonnier par les Prussiens. Il doit, par le même procédé, ramener la réponse du militaire. Déguisé en paysan, il passe la ligne de front.
Il devait, en cas de retard dans son voyage, et supposer que l'étui sortit trop tôt, l'avaler itérativement et mettre par là sa commission en sûreté.
Rapidement capturé, il est battu plusieurs fois par les militaires prussiens qui voient en lui un hypothétique espion. Sans se faire voir, Tarar parvient à réingurgiter l'étui digéré et évacuer une première fois. Pour se nourrir, il achète aux Prussiens des morceaux de pain de munitions. Ce pain militaire indigeste et dur que les soldats font tout pour ne pas avoir à le manger. Il est généralement conseillé de ne pas trop en consommer, sous peine de diarrhée sévère. Finalement, sans preuve d'un quelconque acte d'espionnage, il est expulsé vers la France.
De retour à l'hôpital militaire de Soultz, il demande à suivre un traitement afin d'être soigné de sa gloutonnerie. Des remèdes coupe-faim à base de tabac, d'opium ou de coque du Levant lui sont donnés, mais ils restent inefficaces. Dorénavant, sans intérêt militaire,
il fut obligé de pourvoir lui-même à ses énormes besoins, et ce fut souvent aux dépens des bergeries, des basses-cours et des cuisines d'autrui. Il allait aussi dans les boucheries et dans les lieux écartés, disputer aux chiens et aux loups leur vile pâture.
Il est prêt à tout pour calmer cette envie irrépressible de manger, à tel point qu'il horrifie son entourage. D'après Percy,
nos infirmiers publièrent les uns qui lui avaient vu boire le sang des malades qu'on venait de saigner, et les autres qu'il l'avait surpris dans la salle des morts, contentant son abominable faim.
Des rumeurs autour de la disparition d'un enfant de 14 mois poussent les autorités hospitalières à expulser Tarar dans le début du deuxième semestre 1794. Il n'y a pas de source historique qui mentionne Tarar après cette expulsion de 1794. Comment fait-il pour survivre? Où vit-il? Comment gère-t-il sa voracité? Il est admis à l'hôpital de Versailles vers juillet 1798. Sa santé est très affectée et il est sans force. Selon Percy, son état peut s'expliquer par la disparition de son appétit démesuré, car
on n'eût pas manqué, malgré les grands événements de la Révolution, de parler d'un monstre qui méritait aussi d'occuper le public, tout fatigué qu'il était de récits encore plus désastreux et plus effrayants.
Conscient de son état déplorable, Tarar pense que cela est dû à une fourchette d'argent mangée 2 ans auparavant et restée dans son estomac. Il décède à la fin de l'année 1798.
Épuisé par une diarrhée purulente et infecte qui annonçait une suppuration générale des viscères abdominaux.
Les médecins estiment qu'il doit être âgé d'environ 26 ans, donc né autour de 1772. Le citoyen Tarar n'est plus. Pour lui, la nouvelle République se résume à des promesses. Pas le temps de voir par lui-même. Tarar n'est pas dans le petit dictionnaire des grands hommes de la Révolution d'Antoine de Rivarol, mais dans le très, très protivophile, très, très grand dictionnaire des anonymes de la Révolution.
quand tu me traites.
C'est tout de travers. Il faut que t'aies tort. Et pire, moi j'espère. Toi mordre plus fort. Et de ma cachette. J'ai guisé, je guette. Bon Dieu, je te souhaite.
Sinon te soumettre.
Me voilà défaite.
Te voilà mon maître.
Et loin des remords, ulcère au dessert. Perfore à l'aurore, on se fait la fête. À coups de gâchette, c'est pour le bien-être.
Faut tout se permettre.
Tarare est décrit comme étant de taille moyenne et pesant environ 45 kilos.
Son aspect n'avait rien de féroce. Son regard était timide. Le peu de cheveux qu'il y avait encore conservés était très blond et d'une finesse extrême. Ses joues blafardes et sillonnées de rides longues et profondes pouvaient, en se déployant, cacher, comme celle de certains singes, une grande provision d'aliments et jusqu'à 12 œufs ou pommes assez grosses. Sa bouche était très fendue. Il n'avait presque pas de lèvres. Il ne lui manquait pas une seule dent.
La peau de son ventre est elle aussi distendue, flasque. Lorsqu'il n'a pas mangé, elle peut faire le tour de son corps. Lorsqu'il a copieusement mangé, son ventre s'arrondit
comme un ballon.
Son appétit énorme est à l'image des effets que l'absence de nourriture et la digestion ont sur lui. Sans suffisamment de quoi se remplir, il est
abattu, languissant, sans force ni idée. Il ne pouvait se relever de cet affaiblissement qu'au moyen d'une somme d'aliments proportionnée au vide de ses entrailles.
Avec beaucoup de nourriture, la digestion qui s'ensuit le plonge dans un état de torpeur, d'endormissement.
Une somnolence brutale, une sorte d'hébétitude s'emparait de lui, et il allait digérer dans un coin écarté.
Percy précise que si Tarare parvient à se raisonner sur la quantité de nourriture ingurgitée, il reste
vif et leste après son repas.
Évidemment, il produit une grosse quantité d'excréments, qui sont
d'une fétidité insupportable.
Et sa digestion est ponctuée de
bruyantes éructations.
Peut-être sont-elles plutôt que l'opéra la source d'un surnom tel que Tarare.
Polyphage. Polyphagus, dérivé de polus, nombreux, et de phagos, je mange. Nous exprimons par ce nom les mangeurs de profession. Ces gloutons que rien ne peut rassasier et qui, peu délicats sur le choix des mets, les trouvent toujours bons s'ils sont assez abondants pour assouvir leur voracité.
Oh, Oh, ben, bonjour, mais quel voulez-vous? Qui êtes-vous?
Je m'appelle Grosse Bouffe et j'ai très faim.
Oui, ben alors, je regrette, je n'ai rien pour vous, alors décampez, mon ami.
Je reste, je m'appelle Grosse Bouffe et j'ai très faim.
Alors, tout bien réfléchi, il est très possible qu'il me reste un peu de brouette.
J'ai faim. Grosse Bouffe aime bien manger.
Bon, alors voilà, alors vous avez bien mangé, alors au revoir.
Grosse Bouffe a encore faim. Apportez-moi autre chose.
Ah oui, mais c'est que je n'ai plus rien à vous donner. Plus rien.
Plus rien, eh ben, et chat.
Ah ben, ça c'est mon chat, ça ne se mange pas.
Oh.
Si vous mangez ce chat, vous attraperez mal au ventre et vous aurez des pustules.
Des pustules?
Oui.
Grosse Bouffe à faim. Il a une petite faim.
Non, mais j'y pense. Cet éléphant pourrait m'aider à me venger des schtroumpfs.
Grosse Bouffe, il y a toujours faim.
Oui, bien sûr. Mais écoutez, si vous aimez les bons petits plats, je pourrais vous préparer ce qu'il y a de meilleur au monde.
Oui, c'est quoi?
De la soupe aux schtroumpfs.
De la schtroumpf aux schtroumpfs?
De la soupe aux schtroumpfs.
Percy constate que la température corporelle de Tara est toujours élevée et qu'il transpire énormément. Sa respiration est encombrée. Des observations déjà faites dans d'autres cas de polyphagie.
En certains temps, il puait à un tel point qu'à 20 pas, on eût pu souffrir son approche.
Ces quelques lignes sur l'autopsie faite par un de ses confrères et ses étudiants à la recherche de la fourchette en argent sont éloquentes sur l'état de santé général de Tara.
Le foie était excessivement gros, sans consistance et dans un état de putrilage. La vésicule du fiel avait aussi un volume considérable. L'estomac flasque et parsemé de plaques ulcéreuses couvrait presque toute la région du bas-ventre.
Pas de fourchette. Médecin de la fin du XVIIIe siècle, Percy ne sait pas trop quoi penser du cas de Tarare. Quelle explication scientifique médicale donner à cette polyphagie? Plusieurs situations similaires sont mentionnées dès l'Antiquité grecque, et la médecine de l'époque de Percy a documenté quelques cas de polyphagie. Est-ce dû seulement à des dysfonctionnements biologiques ou est-ce aussi le résultat de mauvais comportements sociaux?
Je ne veux pas d'amour, merci. Je ne veux pas d'amis, merci. Je veux de la bouffe, de la bouffe, de la bouffe. C'est pas compliqué, oh oui. Un repas diététique, du gras et de la sauce miam yum. Viande, poisson, purée, je suis prêt pour aller chasser. Je ne veux pas d'amour, merci. Je ne veux pas d'amis, merci. Je veux de la bouffe, de la bouffe, de la bouffe, c'est pas compliqué, oh oui. Je ne veux pas d'amour, merci. Je ne veux pas d'amis, merci. Je veux de la bouffe, de la bouffe, de la bouffe, c'est pas compliqué. Oh oui!
Percy hésite.
L'ingluvie de Tarar peut s'expliquer encore d'une manière. Ce sujet avait aussi l'estomac d'une immense capacité et il est probable que l'habitude de le remplir dès son bas âge de cailloux et de toutes sortes de corps étrangers avait beaucoup contribué à lui donner cet élargissement auquel les intestins avaient bien certainement participé. Il s'était donc établi dans ses parties un mode particulier de vie, d'excitabilité, d'organisme et l'ordre de la circulation et des autres fonctions devait y avoir été changé.
Percy est un médecin militaire et chirurgien reconnu par ses confrères et à l'origine de changements dans l'approche médicale, que ce soit l'amélioration du bistouri ou de la prise en charge des blessés dans les zones de guerre, par exemple. Le regard qu'il pose sur Tarar n'est pas que médical, mais reflète aussi son statut social et ou ses considérations politiques.
On chassa ce misérable qu'on eût mieux fait sans doute de renfermer dans une maison de force si, par un déplorable abus de liberté, on ne les eût alors toutes supprimées ou évacuées.
Pour lui, Tarar est de
ces individus dont, au reste, la carrière est toujours trop longue pour la société.
Exagère-t-il son récit ? Que tient-il directement de sa rencontre avec Tarar ? Et dans quelle mesure reprend-il plutôt des anecdotes venant d'autres hominines non polyphages ?
Je ne ferai pas ici le récit dégoûtant des autres moyens qu'employait ce sale polyphage pour se saturer. Qu'on imagine tout ce que les animaux domestiques et sauvages, les plus immondes et les plus avides, sont capables de dévorer, et l'on aura l'idée des goûts ainsi que des besoins de Tarar.
Je suis en train de me préparer un gloubi-boulga.
Un quoi ?
Un gloubi-boulga.
Tu peux m'expliquer de quoi il s'agit ?
Comment ? Tu ne sais pas ce que c'est ? Mais c'est mon dessert préféré, hein ? Je te le ferai goûter dès qu'il sera prêt, hein ?
Franchement, j'ai jamais entendu parler de ce dessert. Et, Casimir, tu crois qu'il me plairait, à moi aussi ?
Ah oui, tout le monde ne peut qu'adorer le gloubi-boulga.
Qu'est-ce que tu as mis dans ton bol ?
Bon, eh bien, il y a d'abord du chocolat en poudre.
Du chocolat en poudre ?
Oui. Mmh. De la confiture de fraises.
La confiture de fraises, j'adore ça.
De la banane écrasée.
La banane écrasée, c'est très bien, c'est très bien.
Avec de la moutarde.
De la moutarde ?
Oui. Et de la saucisse de Toulouse.
De la banane écrasée, du chocolat en poudre, de la confiture de groseille, avec de la moutarde et de la saucisse de Toulouse.
Oui. Ah oui, mais attention, hein. La saucisse de Toulouse est tiède, mais pas cuite. Hein.
Mais c'est épouvantable, Casimir. Tu aimes vraiment ça ?
Ouais, pourquoi ?
Mais enfin, ça n'a pas l'air très appétissant.
Ah, mais je ne comprends pas. Tout le monde ne peut qu'adorer le gloubi-boulga. Papam 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 papam
autopsie
papam 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 papam.
Percy est le premier à introduire en français le terme médical de polyphage pour décrire les troubles de l'alimentation qu'il qualifie de voracité monstrueuse. Tarar est un de ces polyphages. Adepte d'une vision extrême de la Macédoine, cet ingénieux principe culinaire qui consiste à mêler les aliments ensemble. Quelques années plus tard, Jacques Simon, dit Jacques de Falaise, se rend célèbre par ses performances voraces. Jusqu'à sa mort en 1825, il se donne en spectacle à travers toute la France, dans les salles ou dans la rue. Le contrat qu'il signe stipule qu'il doit, moyennant 400 francs par année, la nourriture et le vêtement, avaler pendant 5 ans et en public tous les objets qui lui seront présentés. Ce qu'il fait sans hésitation. Il est Jacques de Falaise, le polyphage, le mange-tout. Parmi le milieu médical, les termes de homophage, avec ou sans H, sont aussi employés sans que la distinction avec la polyphagie soit toujours claire. L'anthropophage, vous mangerez un homme. L'homophage, au besoin, l'avalerait tout cru. Et le polyphage, tout habillé. Tout comme pour Tarar, son autopsie ne révèle rien de particulier qui puisse justifier leur polyphagie. Le constat médical note évidemment la dimension de l'estomac et les nombreuses blessures le long de l'appareil digestif, qui s'explique par la nature des objets et des vivants ingurgités. D'abord, il est curieux d'établir si la faculté d'avaler une foule d'objets si extraordinaires et souvent d'un volume si considérable tenait à une disposition particulière des organes digestifs du sujet, ou seulement à ce qu'ils avaient surmonté l'éloignement et le dégoût que l'on éprouve d'ordinaire à ingérer ces sortes de corps dans l'estomac. Cette dernière cause me paraît la seule vraie, lorsque je considère qu'on a trouvé chez cet individu rien de remarquable sous ce rapport qu'une grande ampleur du pharynx, de l'œsophage et du pylore. Les sciences médicales actuelles ne savent pas encore expliquer les raisons de la polyphagie. À partir de très rares cas contestés, les pistes évoquent différentes causes possibles. Troubles psychologiques, dysfonctionnement biologique ou infection. Il convient de rester prudent.
Oui, je mange des enfants.
Tous avec moi.
Hey, je vous laisse faire la suite.
Allez, on lève les briquets, qui mange des enfants ?
On mange tous des enfants. La couleur de peau. On mange tous les enfants. Y'a pas besoin d'apéro.
pas besoin d'apéro.
Y'a pas besoin d'apéro.
Juifs, catholiques ou musulmans, on mange tous des enfants.
Ouais. Mais circoncis,
circoncis, c'est pas un souci.
Pour moi,
on mange tous des enfants. Même toi, Marcel, oui, lève-toi, oui. Je te vois, viens, viens danser avec moi, viens, Marcel.
Allez,
allez, chantez tous ensemble, oui,
à,
allez.
À vous.
On mange tous des enfants.
C'est un putain de... Alors celle-là,
celle-là, franchement, Jean, tu vas revenir.
Le cas le plus ancien de polyphagie est, d'évidence, le capitaine Caverne. Et le plus récent est Michel Lotito, alias Monsieur Mangetout. Le premier est un homme préhistorique retrouvé congelé et vivant dans une grotte au Tibet en 1777, qui a donné lieu à une série documentaire d'animation en 40 épisodes.
Capitaine Caverne !
Trois drôles de filles exploraient une caverne au fin fond du Tibet quand elles se trouvèrent nez à nez avec un homme préhistorique, le capitaine Caverne. Il allait devenir le meilleur ami de Brenda, Lily et Babette. Et aujourd'hui, il les accompagne dans les missions les plus périlleuses.
Le second obtient, en 1998, le record mondial du régime le plus indigeste, métal, verre, caoutchouc. Difficile pour Monsieur Caverne de lister avec exactitude tous les objets et animaux avalés, alors que pour Monsieur Mangetout, la tâche est plus simple. Le livre Guinness des records de 1998 valide qu'il a avalé environ 9 tonnes de métal en un peu plus de 30 ans, caddie de supermarché, chaîne, ski, vélo, télé, ordinateur, etc., etc. La plus longue pièce à manger est incontestablement le petit avion de type Cessna 150 qu'il met 2 ans à avaler.
Cet homme était surnommé Monsieur Mangetout et il a mangé un avion Cessna 150. Un véritable avion. Michel Lotito, aka Monsieur Mangetout, était un artiste-performeur français qui a décroché le record du monde du Guinness Book du régime alimentaire le plus étrange.
Very, very good.
Il a découvert son talent à l'âge de 9 ans lorsque le verre dans lequel il buvait s'est brisé dans sa bouche et plutôt que de cracher, eh bien, il a commencé à mâcher les morceaux de verre et il a adoré ça. Puis il ne s'est jamais arrêté. Au cours de sa vie, il a mangé 18 vélos, 15 caddies, 7 téléviseurs, 2 lits, une paire de skis, un cercueil avec poignée.
Il était vide, il n'y avait pas personne dedans.
Et une tonne de choses comme des verres, des assiettes et des lames de rasoir. Mais ça, pour Michel, c'est l'apéro. Et bien sûr, sa pièce maîtresse, un avion Cessna 150. Il s'est attaqué à l'avion en 1978 et a passé 2 ans à le manger bouchée par bouchée en le découpant en petits bouts comestibles d'1,2 cm de long. Enfin, comestibles pour lui. Alors, pour protéger son estomac et ses intestins des objets tranchants, Michel Lotito buvait de l'huile minérale et de l'eau en grande quantité pendant ses repas. Ça servait à faciliter le transit intestinal du métal, du verre ou de tout autre objet chelou. Michel avait aussi un estomac avec une paroi 2 fois plus épaisse que la normale et une tolérance hallucinante aux produits toxiques.
On a essayé de comprendre le phénomène Lotito, ça fait des années.
Alors voilà, ne faites jamais ça chez vous si vous tenez à la vie. Ça me paraît logique, mais faut mieux le préciser. Je veux pas de problème, moi. Le truc qui me fait le plus marrer, c'est que pour toutes ses performances, il a reçu une plaque en métal du Guinness Book et il l'a mangée. Sacré Michel. Alors pour info, Michel Lotito est décédé en 2007 à l'âge de 57 ans de cause naturelle.
Dans les classifications modernes des troubles du comportement alimentaire, TCA, Michel Lotito est diagnostiqué comme souffrant de PICA, qui se caractérise par l'absorption durable de substances non nutritives et non comestibles. Attesté depuis le XVIe siècle, selon le Littré, mot de la basse latinité qui dérive de PICA, pi, cet oiseau mangeant toutes sortes de choses. Le PICA se subdivise en plusieurs pratiques alimentaires désignées selon le produit consommé. La géophagie, c'est manger de la terre. La coniophagie, de la poussière. La lithophagie, des cailloux. La géomélophagie, des pommes de terre crues. Etc, etc, etc. La liste est longue. Beaucoup de ces pratiques se retrouvent à travers le monde et le temps sans qu'elles soient nécessairement jugées pathologiques et appelées PICA. Par exemple, pour des raisons médicales telles que l'argile ou l'urine ou des prétextes culturels tels que la cendre ou le mucus, voire gastronomiques, sexuelles, ludiques ou simplement descriptives. Ainsi, la géophagie, la foliophagie ou la xylophagie, respectivement consommation de terre, de plantes non comestibles et de bois, sont des pratiques contraintes, une spécialité de pauvres lors de famine. Et ces cas de polyphagie sont ceux qui s'expliquent le mieux.
Oh, j'ai mal. Oh, j'ai mal. Non, c'est pas mes soeurs, Marcelo. Fais doucement.
Laisse-toi aller, mais
ne sois pas mes
soeurs. Ne vois pas honte, puyot.
Oh, c'est horrible. Ah, tu sais, quand j'étais petit, ma mère, elle me met toujours des punitions terribles. Et là, c'est la première fois. Ah, c'est la première fois depuis que je suis adulte, tu comprends.
Ne la prends pas au tragique, ouvre les jambes. Pousse.
Oh non.
Ça te soulage. Ça décongestionne. Pousse. Aide. Allez.
Oh là. Oh. Viens de là. Allez, encore.
Parce que tu mâches pas assez.
Ah, Mathieu, sois pas méchant.
Les polyphages titillent l'imaginaire des hominines. Tarar est le héros du roman Le Glouton de l'autrice britannique A.K. Blackmore, publié en 2023 et traduit en français en 2024. Et le pika est le sujet central du film franco-états-unien Swallow, sorti en 2019. Sans compter Wapol, un personnage du manga One Piece qui a la capacité de manger n'importe quoi et de l'intégrer à son corps.
C'est qui ce gros-là ? Il mange tout, même le couteau.
Ah, j'ai mal rien qu'en le regardant.
Ah, faut pas être pressé comme ça, tu sais. Si vous n'avez pas de l'Ocpos, alors tant pis, je me contenterai de votre trésor et du navire.
Hein ?
Mais avant qu'on se mette au travail, comme j'ai un petit creux, je vais me remplir l'estomac.
C'est quoi ce vorin ?
Ça va pas la tête de manger le bateau ?
Toi, tu bouges pas.
Ces études de philosophie et de littérature ont emmené F. Merjanov à étudier le cas rare d'une polyphagie volontaire. L'égosolisme climaïen et le matérialisme du rien, bien que personne ne l'ait lu, évoquent la tentative de Ladislav Klima de devenir polyphage à sa manière. Autant pour des raisons économiques que pour des considérations philosophiques qui le mènent à rechercher une autonomie accrue de l'individualité qu'il considère être. L'égosolisme qu'il théorise et expérimente vise à une forme de polyphagie maîtrisée.
Cuisiner, c'est gaspiller du temps, dépouiller les aliments d'importantes composantes, vitamineuses, les rendre moins appétissants et les payer de 2 à 20 fois plus cher. Pendant des périodes assez longues, je n'ai mangé que de la farine crue, le cas échéant du blé et des pois trempés, de la viande crue, des œufs crus, du lait, des citrons et des crudités. Et j'ai joui ce faisant d'une santé idéale. Et aucun gourmand millionnaire n'a pris autant de plaisir à dégobiller ses huîtres et autres crottes que moi à déchiqueter à belles dents mon kilo de cheval cru. Trouver quelque chose de dégoûtant. Inconnu au bataillon. Une fois, j'ai volé à un chat une souris à moitié croquée, et je l'ai bouffée telle que, avec les poils et les os, comme un petit pain.
Constitué comme les autres hominines, Ladislav Klima fait rapidement le constat que sa polyphagie volontaire et raisonnée est une utopie.
J'ai attrapé une diarrhée à ce point carabinée que je faisais gicler à 50 km à la ronde une liqueur claire comme un diamant de la plus belle eau. La diarrhée dure déjà depuis un mois et cela se répercute en diable sur tout le reste. Si dans l'actuel état d'affaiblissement de mon organisme et de diminution des résistances, je n'attrape pas carrément la dysenterie, je serai plus fier de mes intestins que de quoi que ce soit.
Bonjour monsieur, comment allons-nous aujourd'hui ?
Ça irait mieux.
Mieux ?
Si vous m'apportez un seau, je vais dégueuler.
Ah, Gaston, apportez un seau pour monsieur. Voilà, bien installé.
Oui.
Merci, Gaston.
Pas fini.
Oh, pardon. Gaston, je vous fais toutes mes excuses, monsieur. Aujourd'hui, nous avons votre spécialité maison préférée, le lièvre en cassolette. 8 jours de faisandage, cuit dans une sauce gibier fort riche, avec des truffes, des anchois, du grand marnier, des petits lardons et de la crème. Merci, Gaston.
Pas terminé.
Oh, permettez-moi. Un deuxième saut pour monsieur. Et la fille de salle, s'il vous plaît. Et maintenant, monsieur, prendra-t-il un petit apéritif ou bien préférera-t-il passer la commande tout de suite? Aujourd'hui, nous pouvons vous proposer en entrée, excusez-moi, moule marinière, foie gras, caviar, beluga et blinis, œufs en meurette ou alors tarte au poireau, cuisses de grenouille frites, la sauce provençale, une merveille, œufs de caille à la Richard Shepherd, c'est-à-dire une douzaine d'œufs de caille nappés d'une purée de champignons, un plat très fin, une saveur très subtile.
Je veux tout.
Un choix de gourmet. Est-ce que vous désirez que l'on vous serve le tout pêle-mêle dans un seau, monsieur?
Oui, avec des œufs à cheval.
Oui, bien sûr, avec des œufs frits.
Ne lésinez pas sur le foie gras.
Oh, monsieur, chez nous, le fait de prendre un assortiment des plats n'autoriserait jamais, au grand jamais, à léser le client sur ce qui lui revient. J'y veillerai personnellement, soyez-en sûr. Croyez-moi, on vous mettra double ration. Et maintenant, quelque chose à boire en blanc ou en rouge, monsieur?
Oh oui, donnez-moi 6 bouteilles de Château Latour 1945.
1945.
Et un double Jéroboam de Champagne.
Bien, et avec ça, votre bière hollandaise?
Oui. Non, attendez une minute, je sais que je n'irai pas au-delà de 6 caisses aujourd'hui.
J'espère que monsieur ne nous a pas fait un petit excès hier soir.
La ferme.
Allez le dire. Ah, voici le troisième saut et notre fille de salle. Monsieur, ça y est, j'ai foutu le pied dans le seau de monsieur. Un autre seau pour monsieur. Et peut-être aussi un tuyau d'arrosage. Et pour finir, monsieur, un chocolat fourré à la menthe?
Non.
Oh, il est très très léger et taillé très fin.
Allez vous faire foutre, j'ai fait le plein.
Allons. Une toute petite portion.
Écoutez, là, j'ai les dents du fond qui baignent, je peux plus rien avaler. Fichez-moi la paix.
Oh, j'insiste. Juste une part.
Alors petite.
Oui, oui, minuscule. Voilà. Bon appétit.
Tout sur rien, c'est sur Radio qui pique. Le mercredi à 12h et le dimanche à 19h.